Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Je vous ai raconté hier la première partie de l'incroyable histoire de Michel Vaujour, gangster mythique des années 80 et 90, roi de l'évasion. J'ai tiré tout ça de son livre magnifique, son autobiographie, « L'amour m'a sauvé du naufrage » qui paraît chez XO. Et je vous le dis, vous qui nous écoutez, lisez ce livre, parce que malheureusement, au total des deux récits, je ne peux vous en raconter quoi qu'un dixième. Et encore, il y a encore 90% à découvrir pour vous. Aujourd'hui donc, deuxième épisode, toujours en présence de Michel Vaujour lui-même. Bonjour Michel.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien.
Il vous reste deux évasions à écouter. Je vais les raconter, et ce ne sont pas les moins spectaculaires. L'évasion avec le pistolet en savon, et puis l'évasion par hélicoptère de la prison de la Santé. Puis vos 17 années passées en quartier de haute sécurité, votre découverte du yoga, je pense que ça va surprendre beaucoup de monde, ça. Et puis votre rencontre avec Jamila, qui vous fait tourner la page de tout ça après 27 années passées en prison et donc 5 évasions. Voici le deuxième épisode, l'histoire de Michel Vaujour, réalisation de Céline Lebras.
14h-15h, on de la raconte sur Europe 1.
Si vous avez manqué l'épisode précédent, Michel Vaujour est condamné une première fois à l'âge de 19 ans en 1970 pour un vol de voiture. Il prend 2 ans et demi de prison ferme, une peine qu'il juge terriblement injuste. Il est incarcéré à la prison de Châlons, d'où il sort au bout de 2 ans. Il est interdit de séjour dans 21 départements, il ne respecte pas l'interdiction, il se fait arrêter à Mâcon, il est renvoyé en prison. Et c'est à la prison de Mâcon qu'il signe sa première évasion. Par la grande porte. Il se fait pincer assez vite, après un cambriolage miteux, et se retrouve à nouveau en prison, à Châlons. Il parvient à s'évader du mitard en découpant le grillage de sa cour de promenade. Deuxième évasion. Repris après un braquage, il est renvoyé à la prison de Châlons. Et là, il signe une troisième évasion, après avoir fabriqué un double de la clé de sa cellule, à partir d'une empreinte faite avec de la cire de Babybel. Et donc, il est libre. Il vient de sauter du haut du mur d'enceinte, 6 mètres. Il a fait un roulé-boulé. Il ne s'est pas cassé la cheville. Au loin, la sirène de la prison hurle toujours. Et là, normalement, devrait y avoir quelqu'un qui l'attend, une voiture. En tout cas, c'est ce que lui a promis son copain Luigi, qui au dernier moment a renoncé à s'évader avec lui. Michel balaye la zone du regard. Il s'attend à ce qu'une portière s'ouvre. Il n'y a personne. Salopard de Luigi. Non seulement c'est un lâche, mais en plus c'est un mytho. Alors maintenant, faut pas traîner. Une lumière vient de s'allumer dans la maison juste en face. Il faut filer avant que le type puisse dire « Je l'ai vu partir par là !» Alors il se met à courir et il s'enfonce dans les rues de Châlons. Je me retrouvais seul, dans une ville qui allait vite grouiller de flics. Où aller ? Aller chez lui, dans sa famille ? C'est là qu'ils vont taper en premier. Chez son copain Babane ? Il s'est marié, à ce qui paraît. Il sait pas où aller. Il a perdu contact avec tous ses copains. François, peut-être. Michel ne l'a pas vu depuis 5 ans. Aller chez lui, c'est trop risqué. Faudrait traverser toute la ville. À son boulot, peut-être. Ouais. À son usine. Michel arrive sur le parking de l'usine. Il se cache dans un buisson et il attend. Et au bout d'un moment, il voit arriver la voiture de François. Une traction, figurez-vous, comme dans les films. François se gare. Michel s'approche, il frappe au carreau en restant accroupi. François ! François ! L'autre le voit, il ouvre la portière.
Putain, c'est pas vrai ! C'est toi qui t'es évadé ? T'es déjà au courant ? Ouais, il y a un barrage sur le pont de la Marne. Les flics m'ont contrôlé. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des flics partout. Hein. Je sais pas encore. Je sais pas où aller. Faut que tu me planques 2-3 jours.
Et là, silence. C'est pas facile à prendre comme décision. C'est risqué de planquer un fugitif. Et puis grand sourire.
Avec les flics sur le pont, je peux pas t'emmener chez moi. Mais on va aller chez Gégé. C'est mon oncle. Il habite juste à côté.
Le Gégé en question accepte de l'héberger. Il lui file une couverture. Il lui montre le canapé.
T'as qu'à dormir là.
Et maintenant, que faire? C'est l'éternel problème. Il lui faut de la thune. Et pour trouver de la thune, quoi de mieux qu'un braquage? Sauf qu'il est seul. Est-ce que je suis capable de braquer une banque tout seul, sans complice? Il a pris le train et le voilà à Lille, une ville qu'il ne connaît absolument pas. Il commence par aller s'acheter un flingue, un pistolet d'alarme. Ça fera illusion. Et il s'installe dans le meilleur hôtel de la ville, le Carlton, pas loin de la Grand Place. Et à pied, il se met à la recherche d'une banque à braquer. Ça lui prend 2-3 heures. Et ça y est, il l'a trouvée, pas très loin du Carlton. Alors il appelle la banque.
Allô? Oui, bonjour. Monsieur Berger à l'appareil. Je voudrais un rendez-vous pour un crédit immobilier. 16h45, vous dites? D'accord. À tout à l'heure.
À 16h40, Michel rappelle la banque pour dire qu'il sera un peu en retard. Mais qu'il arrive. 17h. La nuit commence à tomber. Un employé ferme la porte de la banque. Michel attend encore un peu. Et puis il va toquer à la porte.
C'est fermé, monsieur. J'ai un rendez-vous. J'ai appelé pour dire que je serai en retard. Vous êtes monsieur Berger?
Et là, le banquier ouvre.
Je vous en prie. Entrez. Asseyez-vous. Ça sera pas la peine.
Michel vient de sortir son flingue. Et après, ça va vite. Le caissier lui file des liasses. Il enferme tout le monde dans la chambre forte et basta. Ça n'était pas une somme extraordinaire, hein. Mais elle me suffisait amplement pour commencer à organiser ma vie d'homme recherché. Et après? Après la grande vie, pardi. Les palaces, les boîtes de nuit, les femmes. Il a raison d'en profiter. Ouais, il a bien raison. Parce que quelques temps plus tard, on lui file le tuyau d'un mec qui peut lui procurer de faux papiers. Il lui donne un gros paquet d'oseille. Et quand il va chercher ses faux papiers, bam! Les flics! C'est fini la grande vie, Michel. Retour en cabane. Et là, je peux vous dire qu'ils l'attendent de pied ferme. Hein. 3 évasions. Ça mérite pas un 4 étoiles. Michel Vaujour se retrouve à Chaumont. Et à Chaumont, qui vu de l'extérieur comme ça, est une petite maison d'arrêt de province, à Chaumont, il y a un QHS, un quartier de haute sécurité. Une 20aine de cellules où échouent toutes les fortes têtes. Et de là, Michel, du QHS, on ne s'évade pas.
Si t'as besoin de quelque chose, Vaujour, c'est pas la peine de demander. Sauf si c'est une corde pour te pendre.
Et là, il vient d'entrer dans sa cellule. Il ne peut pas s'empêcher de regarder la fenêtre et tout de suite, il calcule. 80 cm par 60, 2,50 m du sol. Sauf que derrière, il y a 3 rangées de barreaux. Et encore derrière, un grillage blindé. Et encore derrière, une plaque de verre blanchâtre. On ne voit pas le ciel. Son regard balaye la cellule, jaune fluo. La table est en béton. La chaise est en béton. Le lit est une plaque d'acier boulonnée au mur avec un matelas mousse. Un petit lavabo, un WC. Et pour le reste, pas d'objet personnel. Pas un. Des fringues estampillées administration pénitentiaire. De la vaisselle en plastique genre dinette. Et c'est tout. Et la lumière allumée 24 heures sur 24. Levé 6h30, toilette à l'eau froide, ménage et la promenade en milieu de matinée. Une heure. Au moins là, quand Michel lève les yeux, il voit le ciel et la tronche du gardien du Mirador qui ne le quitte pas des yeux. Faut que je me rende à l'évidence, hein. Que ce soit en cellule ou en promenade, il n'y a pas de possibilité d'évasion. Et les journées passent, de plus en plus lourdes, de plus en plus seules. J'avais la sensation physique que le quartier de haute sécurité se refermait sur moi comme une tombe. J'étouffais. L'envie de mourir commença doucement à m'instiller son poison. Un truc qui vous a peut-être échappé. Il a 24 ans, le type qui tourne en rond dans sa cellule toute la journée. 24 ans. Michel va trouver le salut d'abord dans le sport. Sa cour de promenade a un périmètre de 18 mètres. Eh ben, tous les jours, il en fait 280 fois le tour en courant. 5000 mètres. Et en cellule, des pompes et des exercices. Mais ce qui va surtout le sauver de la folie, c'est le yoga. Avec le petit mandat que lui envoie sa mère, il s'achète un livre de yoga. Et ça devient sa Bible. Ça le change complètement, définitivement. Il se sculpte physiquement et psychiquement. Jusqu'à devenir un guerrier, calme, réfléchi, efficace, implacable. Et ça, il va le mettre au service de son grand projet. S'évader, bien sûr. Et cette fois-ci, pas pour faire tout et n'importe quoi, hein, comme les dernières fois. Il veut construire une vie ailleurs. Alors il apprend l'anglais, il apprend l'espagnol. Il se prépare. Quand arrive son procès, il ne dit rien, pas un mot. Et il interdit à son avocat de plaider. Il en prend pour 15 ans. Ça fait 3 ans déjà qu'il est au QHS. Un jour, Michel reçoit la visite au parloir de sa sœur. Et à un moment, elle plaque un petit mot sur la vitre de l'hygiaphone. « Gilles te fait dire de récupérer un courrier glissé entre le plafond et le bloc électrique de ta douche. » Gilles, vous vous souvenez de Gilles ? Ils ont préparé la dernière évasion ensemble, le Babybel. Il est en cavale aujourd'hui, Gilles. Et le petit paquet est bien à sa place. Gilles est prêt à lui donner un coup de main pour s'évader. Comment a-t-il pu faire pour faire rentrer ce petit paquet au QHS ? Il est passé par un autre détenu qui, à partir de maintenant, va faire boîte aux lettres. Ils vont pouvoir communiquer. Et il tombe bien, Gilles. Parce que, bien sûr, Michel a un plan pour retrouver la liberté. Et son plan le voilà. Il doit aller au palais de justice de Châlons bientôt pour voir sa juge. Il demande à aller pisser. Dans les chiottes, Gilles a planqué un pistolet. Il le récupère, il arrive dans le bureau de la juge, il la braque, il la prend en otage et il s'arrache. Il envoie donc un message à Gilles pour lui exposer son plan. L'autre tarde à répondre. Eh ben tant pis, il va se démerder tout seul. Il a remarqué que les matons ne regardent jamais dans son slip quand il passe à la fouille. Il baisse le calbar, il tourne sur lui-même, il le remonte, il ne regarde pas dedans. Donc, s'il crée un double fond dans son slibard, il peut planquer des trucs dedans. Et quoi donc ? Eh bien un pistolet. Un faux pistolet en savon et en cirage noir. Il le sculpte pendant des jours et des jours. Et pour le clic du pistolet qu'on arme, il ajoute un coupongle. Et le jour J, ça se passe exactement comme il avait prévu. Il prend la juge en otage, il oblige les policiers à lâcher leurs armes, il les enferme dans le bureau de la juge, il part avec la juge sous la menace discrète de son pistolet en savon, il traverse le palais de justice, il s'excuse auprès de la juge et il reprend sa liberté. 4e évasion. Et une fois de plus, Michel est dehors tout seul, sans plan. Il voit une voiture, il voit une jeune femme au volant, il ouvre la portière, il s'assoit et il dit « Vous n'avez rien à craindre !» Je n'ai pas le temps de vous raconter toute la cavale de Michel. Elle va durer 961 jours, 2 ans et demi. Vous vous doutez qu'elle commence par des braquages, forcément. Comme toujours, il a besoin d'argent. Il y a ensuite des retrouvailles avec Gilles, qui est en cavale lui aussi, et qui est au fond, bah, sa seule famille. Et c'est comme ça qu'il fait connaissance avec la sœur de Gilles, Nadine, qui devient assez vite sa maîtresse et qui tombe enceinte. Là-dessus, Gilles se fait coffrer. Il file à son tour au QHS. Michel et Nadine filent le parfait amour. Et au bout de 2 ans et demi, Michel est sur un trottoir. 2 piétons le croisent. Il ne les a pas flairés et ce sont des flics. Et il le serre. Il n'a rien vu venir. Et il se retrouve en tôle et sa Nadine aussi. Michel se retrouve au quartier de haute sécurité de la prison de Fleury-Mérogis. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il a déjà un plan. Mais cette fois-ci, dehors, il y a tout un tas de marlous qui sont prêts à l'aider. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Et voilà que Nadine, depuis sa prison, le demande en mariage. Ben, il accepte. Là-dessus, en 81, les socialistes arrivent au pouvoir. Les QHS, qui étaient des machines à broyer les êtres humains, sont supprimés. Et Michel se retrouve au milieu des autres détenus, à changer de prison tous les 3 mois. Fresnes, Bois d'Arcy, La Santé à Paris. Arrive le mariage, qui a lieu à la prison de Fleury-Mérogis. Et dans la foulée, Nadine est libérée. Et du coup, elle vient le voir au parloir, le samedi. Et c'est donc avec elle qu'il va préparer sa 5e évasion. La plus spectaculaire, la plus gonflée, celle qui va faire entrer Michel dans l'histoire. Elle le fait sortir, ils partent en Amérique du Sud. C'est ça, le plan. Un jour au parloir, Nadine colle une publicité découpée dans un magazine sur la vitre de l'Hygiaphone. « Devenez pilote privé d'hélicoptère en 40 heures ». Le voilà, le plan. Elle va le faire évader par les airs. Pendant des semaines et des semaines, tous les samedis, Nadine, devenue Nadine Vaujour, apprend à piloter un hélico. Et début 1983, elle obtient son brevet. Il va falloir 2 ans avant qu'elle ne passe à l'action, parce qu'entre-temps, il y a une complication. Au cours d'une perquisition, les flics tombent sur son brevet de pilote.
« Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh ben rien, c'est pour mon plaisir, c'est pour mes loisirs. »
Tu parles. Les flics ont flairé l'embrouille, hein. Ils font passer le message à tous les loueurs d'hélicoptères de la région parisienne. Si cette fille réserve un hélico à son nom, vous nous appelez. Et ensuite, l'administration pénitentiaire fait installer des câbles d'acier au-dessus de toutes les cours de promenade, de toutes les prisons de la région parisienne. Mais il reste une faille. Les surveillants qui sont dans les miradors n'ont pas le droit de tirer sur un hélicoptère qui se présenterait au-dessus d'une cour de promenade. Nadine va alors repasser son brevet de pilotage sous un faux nom, loin de Paris, dans l'Ain. Et le 26 mai 1986, Michel se lève à 6h du matin. Le décompte a commencé. La porte de sa cellule s'ouvre.
Promenade, bonjour.
Michel attrape la serviette qui lui sert de tapis de yoga et il sort dans la cour. Une fois dans la cour, il étale sa serviette et il se met en position de yogi. Et surtout, il tend l'oreille. Et il entend l'hélico qui s'approche. Les autres prisonniers sont stupéfaits. La porte de l'hélico s'ouvre. Un sac tombe dans la cour. Michel se précipite, il l'ouvre. Il trouve un pistolet automatique.
Personne ne bouge!
Il sort une canne à pêche télescopique. Il y accroche une corde. Il va la fixer à une fenêtre. Au bas d'un mur de 60 mètres de haut, et de fenêtre en fenêtre, il se met à escalader le mur. Il arrive sur le toit du bâtiment, il sent le souffle de l'hélico qui glisse vers lui, une main qui se tend. C'est un complice de Nadine, il saisit la main, et dans le grondement de la turbine de l'hélico, Michel Vaujour signe sa 5e évasion.
Il est 10h45 lorsqu'un hélicoptère Alouette 2 avec deux personnes à bord, dont une femme qui pilote l'appareil, se met en vol stationnaire juste au-dessus de la prison de la Santé. L'appareil a été loué ce matin même par une jeune femme sous le nom de Léna Rigon. Cette jeune femme prenait depuis une dizaine de jours des cours à la société Air Continent de Saint-Cyr. Écoutez le témoignage de cet homme qui a vu l'hélicoptère arriver ce matin juste au-dessus de la prison de la Santé.
Il est resté, moi, à mon avis, hein, à peu près 2-3 minutes au maximum. Et de là, on l'a revu prendre de l'altitude avec un gars accroché à l'extérieur de l'hélicoptère et puis laissant tomber une arme à l'intérieur de la prison.
L'opération qui lui a permis de réussir ce matin était parfaitement organisée. Elle a duré moins de 5 minutes, puis l'hélicoptère a atterri quelques instants plus tard, vers 11h sur un terrain de football, en plein milieu de la cité universitaire internationale de Paris. Depuis, on est sans nouvelles de Michel Vaujour et de ses complices. Devant la prison de la Santé, Frédéric Albert, Europe 1.
Et maintenant son plan, leur plan, est de quitter la France au plus vite et d'aller se réfugier en Amérique du Sud, changer de vie, tout recommencer à zéro. Mais là, on bute toujours sur le même problème, l'argent. L'hélico, les deux brevets de pilotage, tout ça, ça a coûté très cher. Et donc, il y a nécessité de se lancer dans un nouveau braquage. C'est toujours pareil. Et ce braquage, Michel ne l'a pas assez préparé. Quand il sort, il y a des flics partout. Ça défouraille de tous les côtés. Michel veut s'enfuir en moto. Un coup de feu, clac, il est blessé. Il a pris une balle dans la tête. Il s'effondre. Son corps lâche. Le combat, Michel, est terminé. Et si je survivais ? Hein ? Non. Non, c'est fini. C'est fini. Je retournerai pas en prison. Et pourtant, le voilà à la prison hôpital de Fresnes. Cette survie m'était insupportable. J'aurais dû mourir. J'étais mort. Cette mort m'appartenait. Elle était ma seule porte de sortie acceptable. Au lieu de ça, je me retrouvais hémiplégique, au fond d'une cellule. Michel ne peut plus se servir de son bras droit, ni de sa main gauche. Il a le visage à moitié paralysé, il a du mal à parler. Mais vous le connaissez, il pense déjà à s'évader. Dans les années qui suivent, Michel va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Djamila. Elle commence par lui écrire sous prétexte d'une enquête pour son mémoire de droit. En 1991, il la voit pour la première fois dans la salle du procès où on juge son dernier braquage. Il se sourit. Et puis un jour, on vient le chercher en cours de promenade.
Bonjour. Le service social vous demande.
Le service social. Il y va. Et il se retrouve face à elle.
Djamila ? Mais comment t'es arrivée ici ?
Elle donne des cours en prison, mais pas dans cette prison. Elle s'est fabriqué une fausse autorisation pour arriver jusqu'à lui. Incroyable culot. Au début, Michel pense qu'elle sera la complice de sa prochaine évasion. En vérité, elle sera la complice de sa rédemption. Jusqu'à sa sortie, 17 ans plus tard, par la grande porte, tout simplement.
Retrouvez Christophe Ondelatte, 7 jours sur 7, de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Voilà, Michel, on a presque fini.
12 ans plus tard.
12 ans, c'est pas 17 ?
Ouais, non.
Ah,
non, parce que vous avez écrit à partir de la date de la balle dans la tête.
Ah, bon, pardon.
Djamila, je l'ai rencontré en 91. Et, ouais, mais sans la balle dans la tête... Il est probable que j'aurais pas pu me remettre en question, comme je l'ai fait.
C'est la balle qui vous a freiné. Elle vous a obligé.
Non, la balle m'a pas freiné, la balle m'a... Ça peut paraître bizarre, mais j'ai vécu ma mort, vraiment ma mort. J'ai vécu ma mort, j'ai eu ce que vous appelez une NDE, expérience...
De mort imminente.
Mort imminente, voilà. Et quand vous vivez une chose comme ça, et que bien sûr vous en sortez, ben, vous fonctionnez plus vraiment de la même façon...
Ça a laissé quelle trace, tout ça, d'abord physique,
vous avez du mal à marcher. Hein.
Ouais, vous êtes hémiplégique, toujours un peu.
Ouais, un peu des insensibilités, surtout que là, je me suis blessé au vélo,
ouais.
En plus.
Mais bon, ça va.
Bon, ça va, je vais très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, mais c'est surtout, c'est plus profond que ça. Ce qui est plus profond, c'est... Ça m'a ouvert autre chose, quoi. Vraiment, ça m'a permis de me remettre en question, parce que... Ouais, On n'a qu'une vie, quoi. On a une seule vie et... Voilà, un éclair de conscience entre deux éternités de néant. Peut-être du néant, mais bon. Seule certitude, c'est ça pour moi. Et ce qui compte, c'est de la vivre complètement, quoi. Et alors, la seule question, la vraie bonne question, c'est est-ce que je suis heureux, quoi. C'est ça, la seule bonne question dans la vie restante, c'est...
Mais Michel, il y a trois femmes qui ont compté ouais. dans votre vie. Il y a Zabeth, il y a Nadine et il y a Jamila. Qu'est-ce que Jamila a de plus qui vous amène à tourner la page, à ne pas vous évader, à ne pas chercher à vous évader?
D'abord, Jamila vient d'un monde totalement différent de Zabeth. Bon, je vous l'ai expliqué, c'était un peu
c'est un premier
amour.
L'amour
d'adolescent, etc. Quoi, vous voyez. Bon, Nadine, elle venait de mon monde, à moi.
Oui.
Elle avait les mêmes valeurs que moi à ce moment-là. Jamila avait un monde totalement différent.
C'est-à-dire?
Ben, Jamila, elle était destinée à être magistrate.
Elle est éduquée, c'est ça que vous voulez dire?
Non, elle n'a pas les mêmes valeurs. Elle n'a pas les mêmes valeurs que moi, et vous voyez, c'est ça.
Elle est réglo, quoi.
Ben, elle est correcte. Oui, elle a grandi dans une cité, elle est... mais elle est honnête, quoi. Vous voyez, elle est dans la vie normale, quoi. Mm. Oui, c'est quelqu'un. Et aussi, elle est d'une autre culture que moi, complètement, quoi. Elle est d'origine musulmane. Ah non, elle m'a montré la force, vraiment la force.
Mais au début, vous vous dites, Jamila va m'aider à m'évader une sixième fois?
Oui.
Oui.
Oui. Non, Jamila est venue, en fait, parce qu'elle était, quand je l'ai vue, là, ce jour-là, venir au parloir.
Elle est un peu amoureuse, déjà, là.
Là, non. Là, c'était, en fait, à ce moment-là, elle est musulmane. Et donc, en gros, l'idée, c'était pour elle, ses études de droit, c'était pour trouver une certaine liberté, quoi. Parce que, disons que dans sa famille, on avait plutôt tendance à lui dire, voilà, une femme, ça reste là, ça bouge pas, ça reste à la cuisine, quoi. Ouais. Donc, elle fait des études de droit pour devenir autonome. Mais non seulement ça va pas loin, parce que quand il est question qu'elle parte à l'école de la magistrature, c'est-à-dire à Bordeaux, ouais, bah, son père lui dit, non, il est hors de question que tu dormes ailleurs que chez nous, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, ensuite, elle rencontre un garçon. Elle est amoureuse et elle se dit bon, on va se marier et puis c'est une autre façon de trouver de partir de chez elle, quoi. Et son père lui dit ouais, tu te maries quand tu veux, mais
pas avec lui,
avec un musulman. Voilà. Et donc voilà, et là elle a peur.
Mais vraiment... qu'est-ce qu'elle vient chercher ce jour-là au parloir en faisant un faux papier?
Ouais.
C'est quand même dingue. Vous êtes le type le plus protégé de
c'est
France
dingue, hein.
Et cette fille arrive avec un faux papelard à aller s'asseoir devant vous.
Ah ouais. Moi, c'est d'énormité. Hein.
Ouais.
Personne ne pouvait me voir au quartier
de sécurité.
Bon, là-haut, on ne pouvait pas me voir.
Ouais.
Il n'y avait aucune personne du service social, justement, qui pouvait venir me voir.
Mais Jamila, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle vient chercher?
Mais je vous le dis pas ce qu'elle vient chercher. Elle espère trouver auprès de moi une liberté qu'elle n'a pas eu la force de trouver, puisqu'elle n'a pas eu la force de se battre pour sa liberté suffisante. Quoi.
Donc, vous la fascinez un peu?
Ouais, parce que c'est-à-dire que moi, je me battais pour ma liberté, quoi.
Ouais.
Et elle le voyait. Et je pense que c'est ce qui la fascine. Et après, mais au début, non, c'est pas de l'amour. Le lendemain, elle est revenue le lendemain.
C'est de l'admiration, alors.
Oui, elle vient me proposer de m'évader et de m'aider.
Elle le dit direct.
Elle le dit direct. Et le lendemain, elle revient et je me souviens, j'ai bon, une femme qui vient me voir, ça fait des mois et des années que je suis là, dans une cellule, etc. Bon, bien sûr, non. Ton autre parfum de féminité, c'est, voilà, quoi, c'est tout. J'ai un peu collé au mur. Et je l'embrasse, quoi. Et je me souviens, c'est vrai.
Elle dit non?
Non, elle dit pas non. Mais elle m'a dit, ça m'a tout compliqué. Hein.
Alors le deuxième épisode, Michel, commence donc au moment de votre troisième évasion, la fameuse évasion Babybel. Vous vous retrouvez dans les rues de Chalon. Vous trouvez refuge chez François, enfin à l'usine où François travaille, qui vous amène chez son oncle. Et là, évidemment, je me pose la question de en qui est-ce qu'on a confiance à ce moment-là? Pourquoi François et pas un autre? Pourquoi lui?
Parce que c'était... j'avais travaillé avec lui dans cette même usine. Et quand je t'ai arrêté, je travaillais là encore au tout début, quoi. Et c'était pas un monde... C'était pas ni un voyou, ni... Voilà, c'était un petit mec normal avec qui j'étais bien. On faisait des footings ensemble... Voilà, c'était... Non, c'était un petit mec sain. Et oui, j'avais confiance en lui.
Voilà. Parce qu'à plusieurs reprises, vous l'écrivez dans le livre, le temps passant, vous n'avez plus confiance en personne. Non. Vous vous faites planter par ce type qui s'appelle Julien, j'ai pas donné son prénom, mais qui vous promet des faux papiers, et qui en fait prend votre pognon et fait venir les flics, et qui vous fait arrêter. À un moment, vous n'avez plus confiance en personne.
Non, personne. Non, en personne du tout. Je vivais dans un mensonge absolu et permanent, mais sans arrêt, quoi. Je veux dire, même les hommes avec qui, c'est vrai, à cette époque-là, je montais au braquage, des choses sérieuses, ne savaient pas. Pendant 3 ans, j'ai travaillé avec eux. Ils ont jamais su que je m'appelais Michel. Ils ont jamais su d'où je venais. Ils ont jamais rien su sur
moi. Ils savaient pas qui vous étiez.
Absolument pas. Absolument pas.
Vous méfiez
l'un d'entre eux aurait su où j'étais, avec qui je dormais. Soit je laissais cette personne avec qui je dormais de côté, ou il fallait mieux pas qu'il sache ça, quoi. Mmh. Voilà.
Le seul en qui vous avez eu confiance de toute votre carrière, c'est Gilles.
Oui, c'est Gilles. Bien sûr.
Gilles, c'est le frère.
Oui, c'est le frère.
Vous écrivez, hein, c'est ma famille.
Oui, c'est ma famille. C'était ma famille. Nadine, Gilles, c'était vraiment ma famille, quoi. C'est ce qui m'avait manqué toute ma vie. Moi, j'avais jamais connu vraiment, quoi.
L'affect,
la famille.
Quoi.
Oui, l'affect. Aujourd'hui, je vis avec ma femme, on vit tranquille, etc. Et ce sentiment de famille auprès de Jamila, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Vraiment, c'est énorme.
Et donc, à
cette
époque-là, au fond, Gilles et ensuite Nadine, c'est votre famille.
Bah, c'était ma famille à cette époque-là, oui.
Alors, ce qui est marrant, c'est que Nadine, vous lui consacrez pas beaucoup de pages, Nadine.
Non.
Elle passe un peu à l'as de l'histoire. Parce que dans le mythe de Michel Vaujour, il y a le mythe de Nadine Vaujour. On a toujours présenté ça comme le couple. Et alors, dans le livre, s'il y a 3 pages sur Nadine, c'est le grand max.
Oui. Oui, je pense que c'est bien comme ça.
C'est pour Jamila, ça.
Non, c'était pas du tout ma ligne d'écriture.
Elle a pas compté, Nadine?
À ce moment-là, si. À ce moment-là, si. Mais pas du tout dans le même sens que Jamila. Pas du tout. Et ça, c'est deux choses vraiment. Je crois que l'amour évolue avec le temps et les hommes. Et vraiment, je crois ça.
Vous étiez moins amoureux et plus complice avec Nadine.
C'était plus avec Nadine, plus une question de loyauté. Vous voyez ce que je veux dire? C'était presque. Je vous dis.
C'est un mec.
Ouais, un peu. c'est vrai que si elle dérogeait à ces règles-là, quoi, ça allait pas, quoi. Ouais. Ça pouvait pas aller.
Ouais.
Et voilà. Et avec Jamila, c'est.
C'est une gonzesse.
Ouais.
Alors, le braquage de Lille, quand même. Faut quand même que je vous engueule sur le braquage de Lille. Ça s'appelle n'importe quoi. C'est-à-dire, vous débarquez à Lille, vous connaissez pas la ville. Vous choisissez la banque 2 heures avant de la braquer.
Et faut faire ce que vous avez, hein.
En même temps, c'était une autre époque, hein.
Non.
C'était plus facile. Un braquage comme ça, c'est pas faisable aujourd'hui.
Ah bon?
Je sais pas.
Bah, peut-être pas comme celui-là, mais un autre. Vous savez, c'était une autre époque, tout ça, les gens de toute époque disent que c'était une autre époque avant, ou c'était mieux avant, ou c'était pire avant, ou etc.
On pouvait bricoler à l'époque, et puis il y avait de l'argent liquide.
Mais dans ces histoires-là, on se reporte sur autre chose que le liquide, à la fin, c'est de l'argent. Dans ces histoires-là, c'est la vieille histoire du coffre-fort, et du mec qui fabrique les coffres-forts, et de celui qui les perce, quoi. Et il y en a qui avancent, l'autre avance en parallèle, mais tout est pareil sur le temps, c'est pareil tout ça.
La grande vie que vous menez après, alors ça revient plusieurs fois, hein. En fait, dès que vous vous retrouvez en cavale, vous êtes dans la caricature du braco en cavale, c'est-à-dire c'est les grands hôtels, c'est les boîtes de nuit, et c'est les filles. Alors il y a un moment où vous mettez en place une astuce qui est formidable, c'est-à-dire vous dites à une fille, je m'appelle Robert, je suis marchand de vin, et puis quand vous voulez vous en débarrasser pour passer une autre, vous disparaissez, elle est incapable de vous retrouver, évidemment.
Oui, bien sûr. Mais c'était... C'était des filles de quelques jours que je prenais dans une boîte, à droite, à gauche.
Fallait bien
pendant quelques jours,
retard,
on passait de super moments. C'était, voilà, pendant que j'appelais ça mes princesses. Et le lendemain, je m'appelais plus Dubois, mais je m'appelais Dupont, et je changeais de palace, quoi.
Ouais.
Etc.
C'était léger. C'était voué à l'échec.
C'était léger, voué à l'échec. Et oui. C'était genre, ça va pas durer. Parce que c'est pas dans la période après, quand je me suis retrouvé avec Nadine, ça c'était autre chose, et moi j'étais radicalement autre chose, mais c'était dans les 3 premières évasions, c'était ça, c'était genre...
Belmondo dans
si
les
je
films,
disais
quoi.
Pas, oh, ça va pas durer, alors profite-en Michel.
Ouais. Bah, en même temps, vous en avez profité. Et je veux qu'on parle des quartiers de haute sécurité, vous y avez passé 17 ans de votre vie, à l'isolement total, c'était fait pour vous casser.
En tout cas... Ça ne m'a peut-être pas cassé dans le sens où vous l'entendez, mais ça m'a fait commettre une énorme erreur. Je me suis radicalisé à un point que vous n'imaginez même pas. Mais radicalisé, ben, vous n'imaginez même pas à quel point j'ai pu me radicaliser, vous imaginez.
Et radicalisé en quoi ?
Prêt à tout affronter, mourir avec le sourire, mais aussi vous détruire avec le sourire avant de mourir. Vous voyez, ça m'a vraiment radicalisé d'un point que c'était...
Mais... C'était attentatoire profondément aux droits de l'homme.
Oh bah, oui, mais c'était pas le genre de...
De l'époque.
De pensée que j'avais, vous voyez. Moi, c'était genre... C'est insupportable, vous voyez. C'est tout.
C'est que 17 ans, vous parlez
social,
à personne.
Le plan social, ça me dépassait complètement. Moi.
17 ans, vous parlez à personne.
Non. J'ai fait quartier d'eau de surveillance 5 ans. Oui. Absolu. Dans la,
là.
Voilà. Après, ils ont été abolis. Et après, d'année en année, au total, ça m'a fait 12 ans de plus dans les quartiers d'isolement, quoi. Ce qui était à peu près la même chose, avec un autre nom. Voilà. Ça s'appelle l'évolution sociale.
Vous avez pensé au suicide. C'est très surprenant, ça, dans votre histoire.
Oui, bien sûr.
Ça prouve à quel point vous êtes détruit à ce moment-là.
C'est même pas le suicide que j'ai pensé à ce moment-là au suicide. C'est plus loin que ça. J'ai décidé que puisque je n'avais pas la force suffisante pour m'évader de cet endroit-là, il fallait que je trouve des forces en moi. Et les forces que j'ai trouvées en moi, c'est tout simplement en acceptant la mort. Quand vous acceptez la mort dans un combat, plutôt que de mourir là tout de suite en me pendant, pourquoi ne pas accepter la mort dans le combat, en ayant une chance de reprendre ma liberté, et en acceptant la mort, ben, vous allez beaucoup plus loin que vous n'auriez jamais été, parce que... voilà.
Le yoga, Michel, alors un gros dur comme vous, vous m'auriez dit, vous. D'ailleurs, il y a des moments où vous racontez que vous récitez le Notre Père et le Je vous salue dans cette cellule de QHS. Mais le yoga, vous le gros dur, vous vous retrouvez en position du lotus.
Oui, sans problème.
Et vous trouvez la voie de la sagesse.
Oui, non. Parce que vous pensez que le yoga est nécessairement quelque chose de paisible. Non, c'est pas ça, je vous assure. Le yoga, pour moi, quand je l'ai abordé à cette époque-là...
Il y a 50 yogas, de toute façon. Bon, c'est le vôtre.
Eh bien, je vais vous résumer ce qu'est le yoga. En tout cas, le Hatha Yoga, pour moi. Le Hatha Yoga, c'est la base de tous les yogas. C'est un ensemble de techniques psychophysiologiques, en définitive, qui, si vous le pratiquez en full-time, complètement investi dedans, vous voyez, complètement investi dedans du matin au soir, voilà, vous permet de vous sculpter vous-même.
De choisir qui vous êtes.
Oh non, parce que ce que l'on est, justement, c'est une évolution permanente. Hein. Vous n'êtes pas celui que vous étiez il y a un an, ni vous n'êtes pas celui que vous serez dans 5 ans. C'est une illusion de croire qu'on l'on est quelque chose et qu'on reste quelque chose. Et donc, moi, je suis entré dans le yoga dans ce but-là, c'est-à-dire à me perfectionner, c'est-à-dire passer à la non-émotion, à me donner une capacité d'action paisible, mais implacable. On comprend les tas de choses avec le yoga et dans le silence, la pratique est le meilleur maître. Et je vivais comme, je ne sais pas si vous connaissez, Stefan Zweig, un livre de Stefan Zweig qui s'appelle Le joueur d'échecs. Le joueur d'échecs, c'est un type qui est enfermé dans une cellule, c'est vide. Il est régulièrement emmené dans les interrogatoires. Bon, j'entends, je ne sais pas, 1940, quelque chose comme ça, vous voyez. Et le mec, il est dans la solitude, voilà, totale, dans cette pièce vide, et de temps en temps, on l'amène à l'interrogatoire où on le torture. Et un jour, en allant à cet interrogatoire, il trouve un petit bouquin, il réussit à piquer un petit bouquin dans la veruse d'un des gardiens qui l'a emmené et qui est pendu dans le couloir. Il se dit, c'est un roman, ça va être super, ça va, oui, il va sortir de tout ça. Et quand il laisse seul dans la cellule, il ouvre, c'est que des chiffres, des diagrammes, des chiffres. C'est un livre d'échecs, quoi. Et il comprend pas ce que c'est. Et puis, il a que ça. Mais il a que ça. Que ça. Vous comprenez? Il a que ça. Alors. Il commence à regarder, il commence à étudier, etc., 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 etc. Il n'arrête pas. À la finale, il finit par jouer contre lui-même. À l'infini. C'est ça, le yoga, pour moi.
Michel Vaujour, on arrive au bout. Il me reste une dernière question à vous poser. Et si c'était à refaire?
Vous voyez, ça, c'est type même de la question qui va pas pour moi. Parce que je vous ai parlé avant. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus le même homme qui a agi, qui a fait à l'époque, voyez.
Oui.
Alors, donner une appréciation a posteriori, elle est un peu fausse. Mais ce que je peux vous dire, ça peut être dans le sens dont vous parlez, c'est que franchement, je regrette rien, quoi.
Rien.
Non, parce que je vais pas me porter en plus des regrets. Putain, 27 ans de placard, 27 ans de trou, et en plus, je vais porter le truc sur moi. Mais non, faut pas. Je vais pas porter la prison dont je suis sorti, je vais pas la porter dans ma tête. La première des prisons où il faut s'évader, c'est les prisons qu'on se met dans la tête, croyez-moi bien. Voilà.
Merci Michel Vaujour. Ce livre, formidable, j'invite tout le monde à le lire. Il y a 2000 histoires à en tirer. Il s'appelle « L'amour m'a sauvé du naufrage ». Il est publié par une grande maison d'édition qui s'appelle IXO, maison d'édition populaire. Vous allez en vendre des dizaines de milliers, Michel Vaujour, de ce bouquin. Je vous le souhaite. Rendez-vous demain, 14h. Très bon après-midi à vous.
Retrouvez Christophe Ondelatte, 7 jours sur 7, de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.